Bonjour chers amis auditeurs. Sur le plateau de l'émission Le temps d'une cathédrale, comme depuis quelques semaines, je retrouve Marie-Madeleine Rey. Bonjour Marie-Madeleine.
Bonjour Martine, bonjour à tous.
Alors nous continuons notre visite guidée de la cathédrale et nous étions restés à la dernière émission à cette fresque du pilier sud du chœur, notamment entre cette balance entre Sainte-Spéry et Sainte-Valérie. Alors Marie-Madeleine, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer cette petite histoire autour de Sainte-Spéry et Sainte-Valérie?
Oui, alors cette histoire de Sainte-Spéry, on l'a déjà évoquée lorsque nous avons parlé des vitraux du chœur. Donc Sainte-Spéry était une sainte de Saint-Céré, qui habitait Saint-Céré. C'était une jeune fille de bonne famille, seigneuriale, et elle s'est consacrée à Dieu contre la volonté de son frère et de son prétendant, qui était un ami de son frère. Et donc ça a finalement très mal tourné, parce que ne pouvant obtenir la main de sa fiancée, entre guillemets, le prétendant lui a coupé la tête.
Tout bonnement.
Pour qu'elle n'appartienne à personne d'autre qu'à lui. Voilà. Mm-hmm. Je résume très rapidement. Hein.
Oh, oui, oui.
Et miracle, Sainte-Spéry a pris sa tête et a marché quelque temps avec sa tête entre les mains.
Voilà, on voit donc voilà. Sur ce tableau, donc, entre guillemets peinture, sur ce pilier.
Sur ces peintures.
À droite, on voit le fiancé qui va pour couper la tête, pour couper la tête. Et de l'autre côté, on la voit tenant sa tête dans les mains.
Oui, mais ça ne correspond pas du tout à Sainte-Spéry. L'histoire de Sainte-Spéry se passe dans une forêt.
Ah,
dans
voilà.
Un bois, disons.
Vous éclairez ce mystère.
Voilà. Et si on regarde les personnages de cette peinture, eh bien, on voit un personnage à droite. Il faut commencer par le petit panneau de droite. Mm-hmm. On voit un personnage assis, qui a l'air quand même assez important.
Qui donne un ordre.
On ne dit pas que le prétendant de Spéry était important. Mm-hmm. Il n'avait pas de fonction particulière.
D'accord.
Et puis, il donne un ordre à un bourreau. Mm-hmm. Or, c'est le fiancé.
C'est le fiancé,
voilà.
Qui devient.
Alors, éventuellement, ça pourrait être le frère qui donne l'ordre au prétendant. Après tout, ça peut, mm-hmm. hein? Bon. Mm-hmm. Mais, vous allez voir que ce n'est pas ça du tout, hein. Et puis ensuite, Sainte-Spéry n'a pas porté sa tête auprès d'un prêtre. Elle est tombée dans le bois. Et à partir de là, il y a eu un miracle, bien sûr, il y a une source qui a jailli, et on a construit au début un petit édicule, un petit oratoire pour commémorer ce crime, disons, hein, et ce miracle quand même.
Alors, comment, par quelle opération, on va dire, mais par quelle imagination, voilà. Nous nous retrouvons devant cette énigme?
Alors, par contre, sous cette peinture murale, il est bien écrit, je le traduis du latin, à la suite de sa décapitation par l'armée des barbares, donc l'armée des barbares, c'est le frère et le prétendant, Spéry reçut la palme du martyr. Alors, il faut revenir dans l'histoire, ces peintures murales ont été restaurées en 1875, 73, 74, 75, sous l'épiscopat de Monseigneur Grimardias,
qui a refait tout le chœur,
avec les vitraux et les peintures. Mais, apparemment, il s'est trompé, mais il n'a pas voulu en démordre. Parce que je me réfère, là, ce n'est pas moi qui le dis, je m'en réfère à l'abbé Viguier, qui a fait une communication dans le bulletin de la Société scientifique et artistique du Lot et littéraire en 1899, donc après que ces peintures, bien 20 ans après que ces peintures aient été restaurées par Cyprien Calmont. Donc nous pouvons dire, voilà, je lis page 146.
Oui.
Mais l'administration diocésaine d'alors sacrifiant la vérité historique à un patriotisme local trop étroit, voulut voir dans cette composition, au mépris de toute vraisemblance, une page des annales de notre Église, le martyr de Sainte-Spéry, patronne de Saint-Céré, et fit tracer au bas des deux tableaux une inscription dans ce sens. Donc l'abbé Viguier dit bien que c'est faux.
D'accord, donc...
Et ensuite il explique pourquoi.
D'accord, donc c'est, ce serait voilà. Sainte-Valérie, donc, si j'ai bien compris.
Alors,
par rapport à ce que vous dites.
C'est Sainte-Valérie, alors qui, elle, était d'une famille riche de Limoges, qui n'était pas croyante hein, au départ du tout, mais elle a été convertie par l'évêque de Limoges, qui s'appelait Saint-Martial, que nous avons vu dans la peinture au-dessus de l'entrée du cloître pour la consécration de l'autel de Rocabadour. Et donc, convertie par Saint-Martial, elle voue sa vie à Dieu et sa virginité, bien sûr. Voilà. Seulement, elle était fiancée, mais très jeune, au proconsul du coin.
D'accord.
Au proconsul qui s'appelait Julius Silanus. Et ça explique le panneau donc de droite, ce personnage qui paraît un peu important.
Oui.
C'est pas étonnant, c'est le proconsul.
Qui donne un ordre, oui, qui est tout voilà. vêtu de bleu d'ailleurs.
Donc c'est Julius Silanus qui donne l'ordre. Alors évidemment, il est furieux. Quand
oui, on voit,
quand Valérie lui dit non 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 non, mon seul époux sera Dieu, eh bien évidemment il est tout coléreux et plus que ça, même puisqu'il ordonne à son bourreau de couper la tête à sa fiancée.
À sa fiancée.
Voilà.
D'accord.
Et donc l'abbé Viguier raconte tout ça dans le détail hein. Vous pouvez vous y référer d'ailleurs si vous tapez cathédrale de Cahors dans les notes qui sont tout à fait au fond de l'article.
Oui.
Eh bien, vous avez cette référence de l'abbé Viguier. Voilà.
D'accord. Donc nous voyons très très bien sur le côté droit de cette peinture.
Le martyr de
Sainte-Valérie et juste à côté
sur la gauche
voilà. Nous apercevons Sainte-Valérie, alors la tête coupée, tranchée,
oui,
et qui tient sa tête dans les mains
qui la présente
à un prêtre.
Voilà, et c'est Saint-Martial.
D'accord, voilà. Voilà le mystère levé.
Voilà. Et donc l'inscription est fausse. L'inscription qu'il y a dessus.
D'accord, effectivement, parce qu'il y a une inscription en latin qui est juste en dessous.
Oui, voilà.
Et qui dit que c'est effectivement le martyr de Sainte-Spéry.
Voilà.
Qui, rappelez-le, Sainte-Spéry
était de Saint-Céré, elle est morte dans un bois.
Voilà, hein. C'est ça. Et non pas la tête tranchée, comme c'est indiqué. Merci pour ce mystère levé, parce qu'effectivement, nous aurions tous cru que c'était bien l'inscription du dessous.
Et l'article de l'abbé Viguier s'intitule « Une attribution erronée ».
Et c'est Monseigneur Grimardias
qui a fait l'erreur.
Qui a fait cette erreur.
Mais volontaire, probablement.
Ah, voilà. Oui. Parce que Saint-Spéry était de...
Parce qu'il préférait que ce soit Saint-Spéry.
Voilà. En dessous de ce tableau, il y a deux personnages.
Oui.
Donc, nous avons à gauche, Saint-Amadour, qui tient la Vierge de Rocamadour.
Oui.
Et à droite,
Saint-Didier.
Nous avons Saint-Didier.
Donc, un des premiers évêques de Cahors au 7e siècle. Et qui a fait beaucoup pour Cahors en édifiant pas mal d'églises et sans doute peut-être une cathédrale primitive, pourquoi pas hein, mais parce qu'il a quand même pourvu Cahors de beaucoup beaucoup d'églises au 7e siècle c'était assez courant mais il a beaucoup fait pour Cahors. Voilà.
Et on les voit tous les deux qui sont mis
dans des ogives,
voilà,
hein, dans des arcades à triple ogive, voilà. Et ils font pendant à Pierre et Paul qui sont sur le pilier d'or,
hein,
qui sont en face. Et nous retrouvons sur le trumeau entre les deux, les deux arcades, la fameuse croix de consécration, hein, qui fait pendant également à l'autre qui est en face. Voilà.
Très
bien. Une des 12 croix de consécration de la cathédrale.
Très bien. Donc nous continuons notre visite nous continuons sur la droite.
Alors nous sortons du chœur.
Voilà, nous sortons du chœur, mais nous continuons quand même sur la droite de ces peintures que nous venons d'expliquer.
Oui.
Et nous avons entre la chapelle Saint-Joseph, ou en tout au moins entre l'entrée du cloître et la chapelle Saint-Joseph, des peintures magnifique d'ailleurs, de couleur, on va dire dans les tons tomates, rouge, ocre,
voilà, rouge, rosé,
qui représente un peu les couleurs du sud de la France, du sud-ouest de la France, on peut le dire. Mais là, donc, complètement à gauche de la chapelle Saint-Joseph, nous voyons cette peinture qui représente une espèce de ville fortifiée. Voilà. Est-ce qu'on peut, on pourrait voir ça?
Alors, moi, je me réfère maintenant au livre la petite plaquette rédigée par Madame Mireille Bénéjean il y a déjà pas mal de temps, dans les années 70 ou 80, et qui donc parle de ses frères, enfin de ses peintures murales, pardon, et qui les décrit comme une ville imaginaire. On ne sait pas trop ce qu'a voulu faire le peintre, mais il faut savoir que ça s'inscrivait dans d'autres peintures. Hein. Toute la cathédrale était peinte. Il faut s'imaginer ça. Il n'en reste que ces éléments de ces deux chapelles. Hein.
D'accord.
Donc, on ne connaît pas l'histoire. On ne peut pas savoir à quoi ça se réfère. Donc, c'est une ville imaginaire, fortifiée, avec des tours, avec des grands édifices, avec des grandes portes, des escaliers.
Oui, qui vont avoir une importance.
Voilà. Alors
tout au long
dans
de cette fresque,
dans ce premier côté, si on peut dire, qui est à gauche de la chapelle,
qui est à gauche, la chapelle Saint-Joseph.
Saint-Joseph. Nous voyons donc ces édifices divers et variés édifiés, et au-dessus des remparts, un archer. Un archer qui arme son arc pour tirer une flèche.
Voilà, c'est ça, il est prêt
à
tirer.
Sur la droite, hein. Voilà.
Tout à fait.
Sur la droite. Il est donc, il se défend. Est-il assiégé? On ne sait pas. Voilà.
Donc il se défend, voilà.
Et au-dessus de cette peinture, une frise avec des décors géométriques.
Je vais vous poser une question, Marie-Madeleine.
Voilà.
On voit dans les cercles, je vois tout de suite un personnage avec une couronne, mais là, dans un premier temps, une personne avec une couronne. Ne serait-ce pas le roi David et sa harpe?
Mais c'est sûr. C'est certainement ça. Je pense que le peintre a voulu, alors, ça serait une invention de Cyprien Calmon. Bon, ce serait, je dis bien, je mets le conditionnel. Mais là, c'est manifeste que c'est David. Mm-hmm. Hein, voilà. Alors, celui de droite, il lève la main vers le ciel. Est-ce un prophète ou un apôtre? Il a un parchemin dans la main gauche.
Oui.
Bon, ça peut être tout prophète ou tout apôtre. Hein,
d'accord.
Voilà.
D'accord.
Alors ensuite,
donc on continue sur le côté droit
entre les deux chapelles.
Voilà, entre la chapelle de Saint-Joseph et la chapelle de la Vierge. Donc, mais nous sommes sur le côté droit de la chapelle Saint-Joseph.
Oui.
Et également sur le côté gauche
de la chapelle de la Vierge.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Alors sur ce côté gauche de la chapelle Saint-Joseph, nous apercevons toujours cette ville fortifiée, mais avec une église.
Voilà.
Une cathédrale, enfin, alors, avec une église.
En effet,
on voit des clochers.
Il y a un édifice religieux en haut à droite, hein, avec des contreforts, des fenêtres, une fenêtre polylobée, des fenêtres géminées sur la gauche, un rempart
qui
zigzague un petit peu, hein, une grande porte fortifiée, une tour fortifiée avec un escalier. Et puis la porte d'entrée est forte également,
voilà, avec un escalier,
avec trois pignons,
voilà.
Et
toujours cet escalier,
qui est
toujours là,
voilà,
devant.
Et alors,
un personnage
sortant de la porte, ce personnage qui paraît, comment dire, un petit peu en colère, hein, qui sort vivement. Et qui brandit une épée encore dans son fourreau.
Ah oui, effectivement, oui.
Encore dans son fourreau. Donc il a l'air de sortir vraiment furieux.
Il a une épée qui n'est pas sortie. Il tient à la main, il brandit à la main une épée, mais il y a autre chose.
Et alors, dans l'autre
main
gauche, il tient ce que l'on appelle un arbre écoté.
Alors, un arbre écoté.
Alors, c'est une branche d'arbre dont on a coupé à la base les petites branches et les brindilles qui étaient attenantes. Voilà. Et cet arbre écoté, c'est un ornement architectural que l'on va retrouver au siècle suivant, c'est-à-dire au 15e siècle, parce que là nous sommes au début du 14e. Eh bien, au 15e siècle, on va retrouver cet élément décoratif dans tous les édifices plus ou moins riches, des marchands ou des seigneurs ou voilà, ou des comtes, etc., dans leur maison et dans leur palais, qui ornent les portes, par exemple, qui entourent une porte sur un linteau.
C'est particulier au sud-ouest ou
C'est particulier à Cahors.
C'est particulier à Cahors. D'accord.
Et alors, pourquoi tient-il ce personnage cet arbre écoté dans la main? Mystère. Surtout qu'en bas de l'escalier, qui est à double volet, eh bien, nous voyons des arbres.
Un arbre qui est plus ou moins stylisé,
oui, qui coiffé de feuillage, par paquet, par groupe. Voilà. Et c'est très curieux. Alors, va-t-il couper encore des arbres écotés ou se défend-il contre des assiégés? On ne sait pas. On ne sait pas du tout.
Cet arbre avec ses feuilles un petit peu regroupées pourrait faire penser, je dis bien dans l'imaginaire, pourrait faire penser aux palmes.
Oui.
Aux palmes.
Oui.
Aux palmes d'entrée.
Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Mais alors, Jérusalem.
Pourquoi brandir une épée?
Après,
voilà. Oui.
Effectivement.
Bon.
Effectivement. Je dis bien dans l'imaginaire.
Oui.
Bien sûr.
Voilà. Alors sur la droite, donc.
Et ensuite, voilà.
Nous avons une. Ça doit être la même ville, mais les toits sont rouges ici, alors que les toits étaient bleus sur la gauche. Bon, on le voit une autre église.
Oui, qui paraît plus imposante.
Voilà, avec trois verrières, une tour, la porte d'entrée, toujours à trois toits.
Oui, mais avec
deux pinacles et un toit.
De façon différente, hein.
C'est différent. Mais c'est une porte forte qui débouche sur un escalier.
Et toujours sur cet arbre.
Et au bas de l'escalier, deux arbres. Cette fois-ci, deux arbres toujours emplumés, permettez-moi ce terme. Et donc, à l'entrée de la porte, beaucoup plus calme que le précédent, un guerrier qui sans doute remet son épée au fourreau. Mais il n'est pas habillé de la même façon que le précédent.
Tout à fait.
Est-ce un autre côté de la ville? C'est possible.
On a l'impression de deux personnages complètement différents.
Ils sont différents, oui, voilà. Ils sont différents. Alors on voit toujours un rempart, un peu en zigzag, des tours, une jolie rosace d'église, et puis un mur fortifié tout à fait au fond, une tour fortifiée également à droite avec un chemin de ronde, voilà. C'est très énigmatique.
Et toujours dans ces couleurs tomates, rouge,
ocre, assez typique. Et puis ça a été restauré, donc les couleurs sont vives et les couleurs sont belles. C'est vrai que souvent on ne les remarque pas, ces peintures. On fait plutôt attention aux chapelles qui sont en dessous. Et c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention pour les voir, parce que d'abord les Cadurciens sont habitués à les voir, donc ils n'y font pas attention. Mais même les visiteurs de passage, il faut leur montrer de près, leur préciser, parce qu'ils ne le voient pas forcément. C'est vrai que c'est souvent à contre-jour, avec les vitraux, et on les voit pas très bien, elles ne sont pas très éclairées.
Effectivement, à la lumière de ce que, c'est le cas de le dire, de l'explication que vous nous donnez, effectivement, nous ne les voyons pas forcément très bien.
Voilà.
Alors, là, nous allons complètement à droite de la chapelle de la Sainte Vierge, où nous apercevons toujours, donc je commence par le dessus, nous apercevons toujours ces personnages qui pourraient être apparentés à des prophètes.
Voilà.
Prêtres, prophètes et rois.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a un roi couronné ici
à
droite.
C'est pour ça que je me permets de dire
qui tient un édifice religieux probablement dans la main et un sceptre dans la main gauche, donc c'est bien un roi. Et à gauche, il y a sans doute un prophète qui est très chauve. Et barbu, mais très âgé. Il a la barbe blanche. Voilà.
Alors nous descendons
et en dessous
sur les peintures.
On continue notre série de villes imaginaires.
Oui.
Si j'ose dire. Et puis avec une tour, une cathédrale, puisqu'il y a des contreforts, une fenêtre. Et en dessous, une porte forte, également avec un escalier.
Plus de personnages.
Et plus rien. Et la peinture n'est plus habitée. Hein, voilà. Mais il y a toujours l'arbre en bas.
Mmh,
le même arbre, sur le même style que les autres. Là, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins de choses à dire. Il y a toujours le rempart quand même. Hein. Mmh. Et cette porte forte qui est différente des deux autres. Il y a une herse. Alors, ici. Il y a quand même une herse.
Vous allez me dire que je vraiment c'est dans l'imaginaire, mais on pourrait imaginer cette porte sans rien, comme le tombeau vide de Jésus. Voilà, oui. Moment de la résurrection. Et voilà. Oui, donc voilà, je suis dans l'imaginaire toujours.
Hein, pourquoi pas. Mais enfin, bon.
Mais nous sommes toujours. C'est une ville fortifiée.
Voilà. Une ville imaginaire.
Bien d'accord.
Voilà.
On est bien d'accord là-dessus. Très bien. Bah écoutez, merci Marie-Madeleine.
Voilà, donc nous en avons fini pour les peintures.
Nous en avons terminé
murales.
Nous en avons effectivement terminé pour les peintures murales de la cathédrale. Et la semaine prochaine, nous allons continuer cette visite par les chapelles de la cathédrale Saint-Étienne de Cahors. Et nous commencerons par la fameuse chapelle axiale où se trouve aujourd'hui et depuis un peu plus d'un an la Sainte Coiffe de Cahors. Merci Marie-Madeleine.
Avec plaisir.
À la semaine prochaine pour d'autres découvertes au sein de cette cathédrale de Cahors. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
1482, histoire d'amour et de désir. Les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient tout genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales. Dans un nouveau millénaire, l'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est venu le temps des